se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
8h08, un grand bonjour à vous. Vous venez peut-être d'arriver chez nous sur RMC. Bienvenue. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Et après le jardin, après la maison, et avant de retrouver tout à l'heure la vie numérique avec Raphaël Grabi, avec Raphaël, on évoquera un sujet d'ailleurs qui va intéresser le docteur Christian Recchia, qui restera avec nous, c'est les montres connectées. Vous savez qu'aujourd'hui, les montres connectées intègrent des capteurs qui les transforment en vrais bijoux technologiques. Certaines montres aujourd'hui connectées peuvent sauver des vies. On vous expliquera comment. Et en plus de cela, on a la chance d'avoir une vraie pépite française. Il s'agit de WeThings, qui est vraiment au top dans ce domaine au niveau mondial. Et on aura le plaisir de recevoir l'un des porte-paroles de WeThings qui nous expliquera comment une montre peut sauver des vies. Mais dans l'immédiat, la forme, la santé. Christian Recchia m'accompagne jusqu'à 9h, voire même un petit peu plus, puisque Christian restera pour notre rendez-vous vie numérique. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour François. Eh bien, je suis très heureux d'être présent parce que nous allons démarrer cette émission avec un très grand professeur de médecine en ophtalmologie pour les enfants. Et vous allez voir que nous allons apprendre des choses. Et je suis celui qui en a appris beaucoup cette semaine sur ce sujet.
La myopie, les écrans.
Oui.
Enfin, je veux dire, tous les sujets d'actualité.
Deux fois plus de myopes d'ici 2050.
À cause des écrans.
À cause d'une façon de vivre, à cause d'une façon d'être, à cause d'une façon d'être sédentaire, de ne pas être en lumière, de ne pas être dehors, de ne pas faire de sport. Donc c'est un mode de vie. Mmh. Et Madame le professeur Raymond Gignac, chef de service à Créteil, eh bien concrètement pourra donc réaliser pour nous une très très belle explication avec la possibilité pour certains verres de maîtriser l'évolution de certaines myopies pour les enfants. Elle nous expliquera tout cela.
Voilà, et puis on ira dans le frigo, Christian.
Ah oui,
le frigo, c'est hyper important.
C'est une maladie internationale. Nous avons la chance d'avoir des réfrigérateurs depuis maintenant 70 ans. Et malheureusement, nous avons la malchance que nos populations mondiales ne comprennent pas pourquoi le frigo est un organisme dans la maison qu'il faut préserver comme soi-même. Et on en reparlera.
Voilà, comment conserver les aliments, comment nettoyer son frigo, l'organisation, l'agencement des produits. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on doit mettre, par exemple, la viande en haut ou en bas? On ne sait pas trop. Enfin bref, il y a toujours des idées reçues sur ce sujet. Christian, vous avez révisé le frigo?
Oh, c'est après une monographie de 150 pages sur le frigo que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années.
Oui.
Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup évolué parce que Raphaël aurait pu être avec nous maintenant. Parce que nous imaginions il y a 10 ans que le réfrigérateur allait pouvoir évoluer grâce aux technologies comme les montres que l'on va évoquer. Ben, ça n'a pas tant évolué que cela. Donc il y a une vraie stimulation psychologique à donner à nos producteurs de frigo.
Et puis on parlera tout à l'heure dans notre coup de gueule de la note salée qui s'annonce pour l'assurance maladie avec les tests Covid. On fera un petit point sur ce sujet tout à l'heure.
2 milliards d'euros, oh, c'est pas grave. Milliards, hein, n'importe qui fait n'importe quoi.
Un test Covid coûte 75€ quasi.
74,80€.
C'est dingue.
Et c'est incroyable. C'est le plus cher d'Europe. Alors, il faudrait peut-être comprendre pourquoi.
Ouais. Voilà. Et puis après, il y a les tests salivaires aussi. Alors, qui arrivent.
Depuis, effectivement, les tests salivaires vont arriver.
Ils vont être testés.
Ils sont un peu moins chers, mais ils ne sont pas forcément plus faciles d'utilisation dans le temps pour attendre les résultats. Donc, on en reparlera tout à l'heure.
Allez, vos questions au docteur Christian Recchia, 3216. L'appli RMC Direct Studio. Et on commence par l'ordonnance, donc.
Et quoi de neuf, docteur ?
RMC.
Manger sain, manger frais, manger
les pommes !
L'ordonnance de Christian Recchia.
Christian, donc, comment éviter le développement de la myopie chez l'enfant et chez les jeunes de manière générale ? Et on va expliquer que, avec notre invité, que la myopie a tendance à se généraliser, à se multiplier.
Et oui, nous avons la chance d'avoir Madame la professeure Dominique Brémond-Gignac, chef de service en ophtalmologie à l'hôpital Necker.
Pas très loin d'ici, hein, dans le 15e.
Et c'est un hôpital de rang mondial et c'est un très grand honneur pour moi, madame, de vous avoir aujourd'hui.
Bonjour, docteur.
Bonjour, professeur.
Bonjour, Christian.
Et donc, l'idée est simple. Je vais être très sobre et humble. Eh bien, écoutez, je ne suis pas compétent en ophtalmologie. C'est quoi une myopie, professeur ?
Bah écoutez, merci Christian de m'accueillir pour pouvoir parler de ce sujet qui est quand même très important. La myopie, c'est le fait que l'œil est trop long dans sa taille et ce qui fait que l'image qui est fournie sur la rétine, qui est l'organe qui permet de voir, ne nous permet pas d'avoir une image bien nette. On pourrait se dire que finalement, c'est pas très grave. Ça se corrige, bien sûr, avec des verres. Mais par contre, quand c'est trop important, ça peut entraîner des complications. C'est pour ça que c'est un vrai challenge. Et quand on sait, finalement, la myopie, c'est une pandémie aujourd'hui, puisqu'il y a une énorme augmentation de la myopie dans le monde.
Pourquoi ?
Alors voilà, la question, elle est là. C'est pas contagieux, hein, quand même, normalement. Mais pourquoi notre vie sur les écrans, probablement avec des lumières un peu différentes, des activités de près bien plus importantes, moins d'activités à l'extérieur, tout ça sont des facteurs qui, manifestement, ont fait augmenter la myopie à tel point que quand vous allez en Asie, sur Singapour, il y a jusqu'à 90% des jeunes adultes qui sont myopes. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça peut représenter ?
Les statistiques moyennes sont à combien ? 33
alors,
à 44 ?
Alors, les statistiques moyennes, au départ, étaient plutôt à 25%. Et je vous dirais que, enfin, mettons à 20-25%. Et je dirais qu'en France, aujourd'hui, on atteint probablement un taux de 35%. Mais ce qui est projeté, et c'est là où c'est vraiment inquiétant, il est projeté que dans les années 2050, il y ait jusqu'à 50% de myopie dans le monde. 50%.
Alors, vous savez, quand je vous entends, professeur, en tant qu'endocrino, je lis une épidémie, une pandémie de myopie jusqu'à 80% en Asie. Je lis, pareil pour moi, en diabétologie, en diabète pour le jeune, c'est la même progression. C'est au fond la courbe qui suit la sédentarité, la vie en intérieur, la vie sur un fauteuil, la vie sans bouger, la vie sans sport, la vie sans lumière, la vie sans regarder au loin. Professeur, quelles sont les solutions ?
La vie sans regarder au loin, c'est intéressant ce que vous dites.
C'est important que
à force de regarder de près, on regarde moins de loin.
C'est Christian Requia qui parle, je ne suis pas compétent.
Madame.
Oui, tout à fait. Donc je vais vous donner quand même quelques solutions parce que on y réfléchit évidemment beaucoup. Et la première chose, c'est des choses toutes simples, c'est qu'il faut penser à ce que les enfants aient des activités extérieures, qu'ils fassent du sport en extérieur, qu'ils n'aient pas trop d'activités d'écran. Là, évidemment, c'est un vœu pieux parce que ça n'est pas toujours facile à réaliser de leur expliquer qu'il faut se quitter les yeux du smartphone. Et en Asie, par exemple, la télévision et les smartphones sont interdits jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans. Alors, en tous les cas, c'est ce qu'on préconise pour les parents, mais ça ce sont et puis des lumières de préférence les plus je dirais extérieures possibles. Mais il existe aujourd'hui maintenant plusieurs innovations et en particulier une qui est simple, en tout cas simple à réaliser, mais par contre extrêmement complexe. C'est un verre défocalisant qui est le verre MyoSmart.
Expliquez-nous, c'est quoi ?
Alors, je vous explique. Bien sûr, on sait que la myopie peut se corriger par des verres correcteurs, donc des verres correcteurs classiques.
Les lunettes de vue que tout le monde a,
voilà.
On est d'accord.
C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Mais ces lunettes, elles peuvent être adaptées exactement comme des lunettes normales avec un verre spécial. C'est un verre extrêmement sophistiqué qui permet d'avoir une vision centrale parfaitement normale, mais d'avoir autour un système qui s'appelle un système d'IMS. Alors vous me direz, c'est très compliqué cette histoire-là. Mais en réalité, il faut comprendre que la myopie, elle est entraînée par le fait qu'il y ait, alors ça va être très compliqué à dire, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement, une défocalisation hypermétropique, c'est périphérique de la rétine. Tout ça, ça fait très compliqué. Ce qui veut dire qu'en fait, les images qui sont renvoyées un peu floues sur l'œil en périphérie vont faire que l'œil va réagir en augmentant sa longueur axiale, c'est-à-dire en augmentant sa myopie. Ce verre, lui, va faire que cette partie périphérique sera corrigée différemment de la partie centrale, de façon à ce que l'œil ne reçoive pas ce signal probablement compliqué, ce signal complexe qui fait qu'il augmente sa longueur axiale. Ce sont des verres qui vont se porter comme des, enfin, ce sont des lunettes qui vont être classiques, on ne verra pas du tout la différence.
C'est des lunettes de rééducation.
C'est une véritable innovation terrible. C'est pas tout à fait rééducation. On freine effectivement cette élongation de l'œil qui paraît un peu inexorable par rapport à ce qui se passe au quotidien.
Dominique, si on a bien compris, en mettant des verres traditionnels, tous ceux qu'on a et qui corrigent la myopie, si on les compare à ces nouveaux verres, les nouveaux verres vont soigner en quelque sorte la myopie et peut-être la faire en sorte qu'elle se développe moins rapidement. C'est ça?
Exactement. C'est-à-dire, soigner, c'est toujours compliqué et un petit peu ambitieux de dire qu'on soigne. Mais en tous les cas, on freine cette augmentation. Donc, le fait de freiner, donc on a moins, à l'arrivée, l'enfant sera moins myope. Et ça, c'est vraiment l'objectif premier. Parce qu'on sait que plus on est myope, plus on peut avoir de risques de complications. Et justement, c'est ce qu'on veut pas. Et on aura des verres moins épais en plus à l'arrivée, ce qui permet bien sûr des activités qui sont beaucoup plus simples à l'extérieur.
Alors, donc aujourd'hui, j'ai mon enfant qui est myope, je vais voir l'ophtalmo. Est-ce que l'ophtalmo peut prescrire ces verres? Est-ce qu'ils existent déjà dans le commerce? Est-ce que les opticiens l'ont? Est-ce qu'ils sont plus chers? Est-ce que c'est bien remboursé, etc.?
Alors, sur le remboursement, je ne me prononcerai pas, mais je pense
comment
que...
Comment s'appellent ces verres, déjà?
Alors, c'est ça, c'est le laboratoire Oga qui fabrique des verres MioSmart.
D'accord.
Mais je pense que maintenant, les opticiens vont quand même être très au courant et au fait de cela. Ils sont disponibles. Maintenant, ça demande quand même des opticiens un petit peu plus techniquement formés pour les monter, parce que c'est quand même une innovation, mais c'est aussi une technologie particulière. Je pense qu'au niveau du remboursement, on travaille, mais ce n'est pas moi, parce que ça ne m'incombe pas. On travaille pour que ça puisse être pris en charge suffisamment correctement. Mais vous savez que les choses sont compliquées au niveau de la sécurité sociale, et malheureusement, là-dessus.
Pour la myopie, c'est une myopie qui va de combien à combien, et ces verres peuvent corriger jusqu'à combien? Moins 10, moins 8, moins 7?
Non, pas tant que ça, parce que quand on arrive, c'est vraiment des verres qui vont être du côté préventif, pour essayer de ne pas, voilà, préventif. Donc si on arrive déjà à des myopies de moins 8 ou moins 10, là on sait que c'est déjà enclenché.
D'accord.
Malheureusement, donc c'est plutôt au contraire sur les enfants qui ont des petites myopies, déjà que ça peut commencer à moins 0,5 ans.
Et ça peut commencer à 6-7 ans,
Exactement, sans aucun problème, même plus petit. Plus petit, donc si vous avez un enfant qui commence déjà à être myope, il ne faut pas hésiter. Alors pas trop trop petit non plus, parce qu'il faut qu'il tienne bien ses lunettes correctement. Mais il est très important, au contraire, de prendre ça, je dirais, à la base. Parce que si on agit précocement, c'est comme ça qu'on sera plus efficace. Si vous arrivez trop tardivement, malheureusement, on sera beaucoup moins efficace. Le processus est déjà bien enclenché.
Pour un enfant en pleine croissance, la rétine qui reçoit ce type de rééducation, entre guillemets, et c'est une rétine qui souffre dans sa façon de répartir sa neurologie, au fond, son fonctionnement.
Globalement, c'est une rétine qui n'a pas les rayons qui sont focalisés sur cette rétine périphérique, et la rétine bien sûr aussi centrale, n'ont pas les rayons qui sont focalisés correctement. Et les lunettes vont les refocaliser sur la partie centrale, mais des lunettes classiques ne vont pas la refocaliser sur la partie périphérique du verre, c'est-à-dire sur la partie périphérique de la rétine. C'est vraiment une technologie originale. Il y a d'autres technologies, il y a d'autres innovations, mais là, un verre, c'est simple à adapter, et c'est facile dans le quotidien.
Professeur, que pensez-vous des opérations? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut opérer depuis de nombreuses années, d'ailleurs, les personnes qui sont myopes, mais ce sont des personnes qui sont adultes, c'est ça?
Tout à fait. Alors, de toutes les façons, les interventions, bien sûr, elles sont efficaces, mais attention, elles vont être efficaces d'abord une fois que la myopie est stabilisée. Ce qui veut dire que il ne faut pas opérer, on ne pourra pas opérer, sauf dans des cas très très spécifiques, mais on ne va pas opérer des plus jeunes parce que, évidemment, la myopie n'est pas stabilisée. Il faut attendre que la croissance complète soit terminée. Donc, en général, des adultes jeunes, mais pas avant.
25 ans.
Voilà, globalement, c'est ça. Exactement. Il faut pas aller trop jeune.
D'accord.
Parce que sinon, ça peut continuer à évoluer, évidemment. Mais par contre, ça va traiter la partie réfractive. Ça va traiter le fait que on va corriger pour qu'il n'y ait plus de verre correcteur, pour qu'il n'y ait plus de lunettes. Mais ça ne traite pas la taille de l'œil, ça ne traite pas les complications potentielles. Et c'est pour ça que c'est un vrai challenge de ne pas avoir une myopie qui se développe de façon importante derrière. Donc c'est pour cette raison que c'est vraiment un problème de santé publique et qu'il faut prendre ça à la base et pouvoir placer ces verres déjà dès le plus jeune âge si la myopie s'est enclenchée. Il ne faut pas oublier toutes les mesures de précaution avec le sport à l'extérieur, avec la diminution du temps passé sur les écrans. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça, c'est aussi des choses simples que les parents peuvent réaliser tous les jours, au quotidien.
Dominique, les écrans, c'est l'ennemi de l'œil, tous ces écrans qui nous entourent.
Alors, c'est notre quotidien. C'est aussi ce qui nous a apporté beaucoup de choses, mais le travail de près soutenu, sans que il faut penser à relever au moins sa tête régulièrement.
Et est-ce qu'il existe des verres qui sont
minutes, mais...
il existe des lunettes qui sont là pour reposer les yeux, etc. Ça sert à quelque chose?
C'est utile. Il faut pas négliger le fait que parfois on a besoin d'une petite correction et cette petite correction, si elle n'est pas réalisée évidemment, ça va être un facteur aggravant. Il y a certaines lunettes de repos, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui ont démontré que celles-ci sont efficaces. Au contraire du verre Neosmart, qui lui a une étude qui a démontré l'efficacité sur la réduction, sur la freination de la myopie. Ça change la donne.
Si je peux me permettre, dans les actions de prévention que nous réalisons depuis une trentaine d'années avec mes collaborateurs, nous constatons depuis 5 ans, au niveau des écoles, au niveau des activités sportives, au niveau de l'UNSS et à la Fédération internationale, c'est que nous voyons effectivement plus de lunettes. Et dans les écoles, nous organisons désormais une véritable rééducation de la position de la tête face à l'écran, parce qu'il n'y a pas seulement un problème d'allongement de l'œil et de myopie que nous venons d'entendre, il y a aussi un problème de cervical, de posture, et on le sait très bien, quand une personne de 50 ans bénéficie de verres correcteurs de vision de prévision de loin, la mauvaise position à 0,5 millimètre près de verre par rapport à la lunette peut provoquer un abaissement ou un relevage de tête, ce qui provoque concrètement des cervicalgies majeures. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas seulement un problème concret, si vous voulez, d'allongement de l'œil pour l'enfant, il y a un problème d'attitude de la lordose cervicale et lombaire, et là, c'est un élément très important à intégrer. Ce que je veux simplement souligner stratégiquement, c'est que cette épidémie de myopie va et parallèle à l'épidémie de diabétologie, de surcharge pondérale et donc de problèmes vasculaires inhérents même chez l'enfant. Et mon passage de 30 ans chez Cabrol montrait qu'il y avait un abaissement de l'âge de l'apparition de l'infarctus chez la femme et chez l'homme. Et donc tout ça concourt au mot-clé, la sédentarité.
Merci beaucoup Dominique, merci professeur.
Merci Christian, merci
Dominique. Merci,
à bientôt.
Et alors, vous êtes quelques-uns à nous demander le nom de ce verre dont le professeur nous parlait il y a un instant. Il s'agit de Miosmart, ça s'écrit MIYOSSMART. Voilà, Miosmart. On revient dans un instant, Christian. Après les yeux, le froid et le réfrigérateur, plus précisément. Comment bien conserver ses aliments, comment organiser son frigo. On vous dit tout, 32-16, si vous avez des questions, l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite.
RMC, vous qui avez fait tout ce chemin, qu'est-ce que vous attendez pour regarder dans le réfrigérateur?
Vous savez à quoi? On voit qu'on est une famille bizarre à nos frigos.
8h-9h.
T'as vu le frigo des gens normaux? Déjà, quand tu l'ouvres, il s'ouvre pas comme ton frigo. Eux, leur frigo, il s'ouvre comme les portes du paradis.
Votre forme.
Mais il faut regarder dans le réfrigérateur.
Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton. T'ouvres le frigo, on dirait qu'il va te dire: tu veux une glace?
François Sorel.
Après, dans la portière en haut, t'as des œufs. À côté des œufs, t'as des gouttes pour les yeux. Et à côté des gouttes pour les yeux, t'as un vaccin que tu devais faire quand t'avais 4 ans.
Christian Recchia.
Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule.
8h32. L'histoire du frigo avec les gouttes pour les yeux, le vieux vaccin et les œufs à côté. Peut-être que ça vous évoque quelque chose, hein, franchement. Christian, votre frigo est bien rangé.
Oh, oh. C'est de l'horlogerie suisse.
Vous savez quoi, moi, je rêverais de voir votre frigo.
Ah ouais, l'horlogerie suisse. Horlogerie suisse, et je suis d'ailleurs de Lugano-Locarno, dans le Tessin suisse.
Oui.
Eh bien, croyez-moi, à côté, le frigo, c'est beaucoup mieux.
Vous avez des questions sur le
frigo. Sérieux, c'est une émission très sérieuse, alors, mesdames et messieurs, je tiens à vous le préciser.
Mais bien
nous
sûr.
Allons parler du frigo.
Vous avez des questions sur ce sujet, on ne sait jamais, tiens, concernant l'hygiène du frigo ou conserver les aliments. N'hésitez pas dès maintenant, 3216, l'appli RMC, direct studio, on attend vos questions, mais posez-la vite, comme ça on peut peut-être vous prendre à l'antenne d'ici quelques minutes. Le frigo qui est hyper important parce que forcément on y stocke des aliments, on va dire sensibles, hein, Christian, et il faut une hygiène parfaite.
Mais vous savez, mesdames et messieurs, le réfrigérateur, le frigo, cette armoire qui donne du froid, a sauvé des milliards de personnes. C'est-à-dire que avant 1945,
mais oui,
quand le réfrigérateur n'était pas populaire, avant 1955, on va dire, avant 1960, il y avait en France plus de 22 000 morts par an liées à des aliments périmés qui ne supportaient pas la chaleur. Il y avait dans les maisons françaises une cave ventilée à 10 degrés où on essayait de mettre l'essentiel, et ces caves ventilées étaient remarquables pour les fruits et légumes.
Mais à 10 degrés, on ne consomme pas la viande.
Mais à 10 degrés, on faisait des catastrophes et on avait des gens qui mouraient d'infections et de toxi-infections alimentaires. Aujourd'hui, 20 000 personnes en 1920, aujourd'hui, c'est globalement, on va dire, péniblement, je dois vous annoncer le chiffre, c'est 200 personnes par an chez des personnes qui malheureusement sont en dépression immunitaire.
Oui.
Je puis vous dire que les industries agroalimentaires françaises ont une rigueur de cahier des charges, du respect du froid qui est absolu. Vous pouvez pas vous imaginer le respect que j'ai par rapport à ces gens. Il y a des contrôles remarquables. Les fraudes font un travail exceptionnel de contrôle du froid dans les industries agroalimentaires. Oui, mais les industries agroalimentaires ont des ingénieurs, ont de la surqualité,
oui,
ont des contrôles quotidiens.
On n'a pas nous, un ingénieur à la
et
maison.
Et nous, chez nous, dans nos petits appartements et nos petites maisons, nous avons un réfrigérateur où il faudrait avoir, s'il vous plaît, le vice, la qualité, deux fois par mois, de vider ce réfrigérateur et de nettoyer les parois. Ça, c'est acte 1. Acte 2, c'est...
On les nettoie avec quoi, Christian?
Ah ben avec du vinaigre blanc, on le laisse sécher. Ensuite, on remet rapidement des produits alimentaires qui viennent du supermarché.
Oui, parce que pour nettoyer le frigo...
On enlever les emballages.
Pour nettoyer le frigo, il faut l'ouvrir.
Alors déjà, il faut l'ouvrir.
Et donc il se réchauffe.
Mais ça dure 5 minutes, hein, si vous voulez.
Oui, oui.
Ça dure 5 minutes.
Long, hein, 5 minutes.
L'éponge, mesdames et messieurs, elle doit être propre. Évidemment, c'est pas. Vous n'allez pas prendre l'éponge qui a nettoyé l'évier pour aller nettoyer le réfrigérateur.
Est-ce qu'on peut prendre l'éponge qui a nettoyé les WC?
Donc concrètement, l'éponge doit être propre et généralement l'éponge qui est propre du réfrigérateur. Ensuite, je la passe à l'évier et c'est toujours une éponge propre, toujours quelque chose de propre. Ensuite, en vinaigre blanc, on sèche. Ensuite, on pose les aliments. On ne touche pas la paroi des produits alimentaires contre la paroi du frigo. Ça, c'est acte 2. Acte 3, très important, quand vous venez du supermarché ou d'un magasin, vous déballez tous les cartons que tout le monde a touchés. Donc ça, c'est un acte très important.
Par exemple, les yaourts, on enlève le carton des yaourts.
On enlève tous les sur-emballages inutiles.
D'accord.
Ensuite, on ne met pas de fruits et légumes avec de la terre dans le réfrigérateur. D'ailleurs, mettre des fruits dans un réfrigérateur, ça diminue la qualité de conservation des fruits. Fruit et un légume se conservent à 10 degrés. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, vous qui fabriquez du blanc, c'est-à-dire le blanc, c'est ces armoires blanches qui font du froid, ou qui d'ailleurs font ces remarquables armoires à vin. J'ai appris des choses tout à l'heure contre les vibrations. C'est remarquable ce que j'ai entendu chez PC, comme d'habitude d'ailleurs chez PC. Eh bien, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, mesdames et messieurs, mais inventez-moi des armoires blanches où les fruits et légumes peuvent être, je dirais, préservés au mieux. On a démontré que quand il fait trop froid, le fruit et le légume perdent en vitamines. Donc, c'est important d'intégrer ça.
Attendez, parce que vous ne répondez pas à ma question. Ça voudrait dire qu'il faut un compartiment dans le frigo à 10 degrés pour les fruits et les légumes?
Mais absolument, c'est une autre armoire.
Ça existe, ça, ou pas?
Ça existe, mais c'est une autre armoire. C'est de la place en plus. C'est dans les petits appartements à Paris.
Ah, donc il faudrait un deuxième frigo.
Il faut une deuxième armoire.
Enfin, c'est pas tout à fait un frigo.
Ça
serait une cave à légumes.
C'est une cave à légumes au lieu d'une cave à vin.
Ça existe, ça?
Bien sûr. Sauf que cette cave à légumes, elle peut vibrer. Vous voyez, c'est pas un problème pour le légume.
Ouais.
Contrairement aux caves à vin. Alors, par ailleurs, je continue. Alors là, s'il vous plaît, quand vous achetez un réfrigérateur,
vous venez d'avoir un cadeau de mariage, le réfrigérateur, eh bien, mesdames et messieurs, vous dépensez...
Bah, n'attendez pas d'avoir un cadeau, enfin, de vous marier pour vous offrir un frigo, quand même.
Certains le font, certains le font. Oui, absolument. Eh bien, concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est mettez un thermomètre à 1 euro en haut, un deuxième thermomètre en bas, et un au milieu pour voir finalement comment votre réfrigérateur est ventilé.
Se comporte.
Et parce que il y a des réfrigérateurs tout à fait différents. Et donc évidemment, là où il y a le froid net autour de 4 degrés, 3 degrés, vous mettez le poisson, vous mettez la viande, vous mettez les choses très fragiles.
Le plus froid, en fait.
Au plus froid, il y a les viandes. Ensuite, concrètement, le poisson. Ensuite, au-dessus, bah, vous mettez les yaourts. Et encore au-dessus, là où il fait le moins froid, bah, vous pouvez mettre des fromages et des choses ventilées.
Mais Christian, est-ce que ça peut être l'inverse, parfois, dans certains frigos? Est-ce que le dessus peut être le plus froid?
Oui,
parce que je crois que
le moteur n'est pas forcément placé au même endroit.
Je crois que mon frigo, c'est tout en haut où il fait le plus froid.
Et si, exactement, ça c'est l'essentiel des frigos. Ça c'était des frigos des années 2010. Mais sachez un point très important, c'est que normalement les frigos normaux ont aujourd'hui des thermomètres qui permettent d'indiquer par étage la température. Ça, c'est le top. Et je pensais, et d'ailleurs, nous en avions évoqué les principes, François, dans les années 2011.
Non, mais Christian, c'est magnifique ça, mais ça coûte une fortune.
Non, ça coûte 1 euro en plus.
De quoi?
Pour le producteur, ça coûte 1 euro en plus. Et le frigo,
doit coûter
30 ou 40 euros en plus. Non, mais franchement, François, j'ai vu les prix. C'est 30 ou 40 euros.
Un frigo avec l'affichage de la température sur chaque...
C'est 30 à 40 euros en plus.
Sur chaque étage.
Mais le problème, c'est que les vendeurs chez Darty ne savent pas en faire la promotion, parce que les vendeurs chez Darty ou ailleurs, pardon, j'ai cité Darty, mais partout ailleurs,
oui,
pardon, ne connaissent pas la physiologie d'un réfrigérateur. Il faut un réfrigérateur ventilé, point final. C'est pas suffisant. Il faut même en réfrigérateur ventilé, ce qui est très bien, il faut connaître comment votre frigo fonctionne, et ce qui permet finalement de voir qu'au fur et à mesure du vieillissement du réfrigérateur, vous avez des réfrigérateurs qui changent de température. Et alors là, dernier point, si je puis me permettre, avant les questions, c'est que quand vous ouvrez un réfrigérateur et que vous réfléchissez devant le réfrigérateur porte ouverte, mais il faut moins de 1 minute et pour réchauffer le réfrigérateur, et après il va falloir une demi-heure, 30 à 45 minutes pour le réfrigérateur, pour recouvrir une température autour de 4 à 6 degrés. Donc, ne restez pas devant le réfrigérateur comme devant une télévision. Soyez, avant d'ouvrir, il faut savoir ce que vous prenez, et tout de suite, vous refermez. C'est très important.
Et les réfrigérateurs... C'est vrai que parfois, on ouvre le frigo et ça...
On a du mal à l'ouvrir.
Non, mais ça fait du bien, ça inspire.
Oui, j'entends bien, mais ça, c'est votre aspiration.
Un petit yaourt, une petite mousse au chocolat.
Un petit yaourt sucré, etc. C'est votre
aspiration. Un petit fromage.
Oui, absolument. C'est parce que quand vous arrivez le soir, comme vous avez cessé, François, de boire de l'alcool en arrivant du travail, eh bien, vous ouvrez votre frigo et vous prenez un Beaufort, vous prenez un grand fromage.
Vous savez quoi, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis cet été. C'est pas mal, déjà.
Mais je sais, François, je vous taquine, je sais que vous ne buvez pas.
On dirait, quand je parle comme ça, on dirait un témoignage des alcooliques.
C'est Gilles qui m'a demandé tout à l'heure de témoigner dans ce sens.
Bon, vous savez quoi, on va continuer sur le frigo dans un instant. Vous avez des questions sur ce sujet? Moi j'en ai plein, hein, Christian, donc je vais vous bombarder, mais j'aimerais bien aussi que vous puissiez intervenir, vous qui nous écoutez. Le frigo, comment est votre frigo, tiens? Et puis surtout, si vous avez des questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 9h moins le quart, le retour de ce week-end des experts, c'est évidemment la forme, la santé, avec le docteur Christian Recchia, toujours chaque samedi entre 8h et 9h. On évoque le frigo, on essaie de vous donner quelques petits conseils pour bien choisir votre frigo, comment le nettoyer, comment stocker les aliments. Vous avez des questions sur ce sujet, 3216 ou l'appli RMC et Direct Studio. Tiens, on a François qui nous pose une question, non pas sur le frigo, Christian, mais sur le congélateur. Est-ce que c'est un bon moyen de conservation des aliments et pendant combien de temps, tiens?
Remarquable question. C'est ce qu'on appelle une digression positive. Eh bien, écoutez, chaque fois que vous placez vos aliments dans un réfrigérateur, notamment les légumes, quand vous ressortez ces légumes et que vous les décongelez, lentement, naturellement, 100% des vitamines sont préservées, 100% des phénols sont préservés, c'est mieux que du frais. Ce qui veut dire que quand vous levez du sol à la méthode Mulan, les légumes, que vous les nettoyez et que vous les mettez, placez au congélateur, vous les levez du congélateur, vous avez encore 100% des vitamines. Et alors, comment fait-on? La question est très bonne, François, c'est, eh bien, je les lève du congélateur, je les sors, je les mets à l'air libre le matin quand je pars au travail, et le soir, je récupère des légumes frais comme s'ils venaient du jardin. Monsieur, madame,
la viande,
c'est une remarquable question. La viande, c'est encore mieux. La viande, congélateur, est une... Merci François, j'aurais oublié. Eh bien, la viande, c'est une maturation. C'est-à-dire que la viande sort maturée, elle est plus tendre, elle est plus digeste, et le congélateur est une efficacité. Et le congélateur, mesdames et messieurs, en ces temps difficiles, est une façon de bien gérer son porte-monnaie. Parce que ça permet d'acheter des choses moins chères, et ça permet de préserver 100% de la qualité des aliments. En revanche, gérer un congélateur est un vrai travail.
Mais comment décongèle-t-on de la viande, par exemple ?
Ah ben, il faut justement sortir la viande, donc prévoir,
oui.
Et il faut que la viande se décongèle tranquillement.
Mais elle se décongèle
à température ambiante, du réfrigérateur.
Parce qu'on m'a dit, ne jamais décongeler la viande à température ambiante, plutôt
c'est,
la décongeler dans le frigo.
C'est dans l'endroit du réfrigérateur le plus chaud. Comme ça, elle se, à la fin de la journée...
Mais ça prend des journées entières.
Non, ça prend une journée.
Ah oui.
Effectivement, il faut prévoir.
Ouais,
alors
ça.
Là, le vrai problème, c'est quand des amis arrivent, que vous avez 5 steaks dans le congélateur...
Exactement.
Et que vous devez décongeler. Mais alors là,
ou
je vais vous dire, vous cassez tout au niveau de la cuisson. Ou alors, en revanche, c'est peut-être la seule fois où je vais prononcer four à micro-ondes dans cette émission, c'est que le four à micro-ondes à faible température, lentement, en 10-15 minutes, peut finalement faire décongeler ce steak. Mais ça sera de toute façon moins bon qu'une décongélation lente. Parce qu'une décongélation rapide, François, c'est une explosion cellulaire de votre steak. Et du coup, le steak rend son eau et son gras et il perd son goût.
D'accord. Important. Tiens, on a Julien qui nous raconte cette petite anecdote. Il nous dit, je vous entends parler des réfrigérateurs. Étant artisan boulanger pâtissier sur Valence, il me vient une anecdote sur la façon de voir la chaîne du froid chez certains de nos clients. Écoutez bien, une cliente a commandé un Vacherin pour descendre sur Marseille. Donc, c'est 2h30 de route hein, quand même, hein, de Valence. Un 14 juillet, Christian. Et elle s'est étonnée que le Vacherin n'a pas tenu la distance sur la plage arrière du véhicule malgré la clim à fond. Vous vous rendez compte, 2h30 de voiture, le Vacherin sur la plage arrière, le 14 juillet.
Oui, moi, je connais ma belle-mère qui achète une tropézienne à Saint-Tropez et qui attend de la manger à Paris. Françoise, si vous m'écoutez, je tiens à m'excuser. Mais en fait, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'au fond, le vrai souci...
Et ce que nous dit Julien, c'est qu'il faut une glacière, évidemment, même dans une voiture, même si elle est climatisée, et encore
mais
plus l'été.
C'est un travail que j'ai fait chez Vincent Pic, chez la marque Bien. C'est-à-dire qu'au fond, on apprend aux gens, quand ils achètent dans un supermarché, vous avez 15 minutes pour rentrer chez vous. Lorsque les produits sont frais. Quand vous avez de la glace, vous le comprenez très très bien. Mais quand vous avez un yaourt, quand vous avez des fruits et légumes, eh bien, il y a dans un coffre de voiture, quand il fait 28-35 degrés comme en ce moment, mais vous cassez quasiment la moitié des vitamines de vos produits frais. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et donc, là aussi, je dis à Jean-Luc Moreau, existe-t-il, Jean-Luc, des marque de voiture qui aurait l'intelligence de mettre en place un petit réfrigérateur à 10, pas à 5 degrés, mais quelque chose à 10 degrés dans le coffre, je pense que ça doit se faire. Je pense qu'il doit y avoir une prise dans le coffre où on peut rajouter ce type d'outil, où on met les choses les plus fragiles,
oui.
le poisson, les viandes, les choses les plus fragiles. Mais ça, c'est pas l'éducation du pays, parce que quand on voit sur les parkings de supermarchés ou autres, les gens... Ils mettent ça et souvent ils vont continuer à faire des courses. Et quand les courses reviennent, la moitié des vitamines des courses sont parties à cause de cette absence de savoir gérer la logistique.
On parlait tout à l'heure de ce frigo idéal qui indiquerait la température à chaque étage, hein, Christian.
Oui.
Et nous avons Bob qui nous dit, oui, ça existe, mais ça coûte très très cher, beaucoup plus que les 40 euros que vous évoquiez tout à l'heure.
Très bien,
il a fait une petite étude de marché, hein, Bob. Il aimerait bien changer de frigo. Il voulait justement un réfrigérateur un peu haut de gamme avec ses indications de température. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est cher aujourd'hui. Et ça devrait être... peut-être plus abordable, non ? Parce que c'est vraiment un sujet santé.
Là où je suis, vous savez, François, vous êtes toujours dans la extraordinaire innovation, et Raphaël et vous allez le montrer encore dans quelques minutes. Et là, ce que je regrette, et je me souviens très bien d'une émission qu'on a fait sur ce sujet il y a une dizaine d'années, eh bien, on constate que les innovations prétendues des industriels ne sont pas arrivées, parce que finalement, les personnes, les consommateurs n'ont pas percuté, et les industriels ne sont pas responsables, c'est parce que les consommateurs n'ont pas été sensibilisés à ce sujet. Et je dirais que dans les 5 prochaines années, il faudrait des réfrigérateurs plus intelligents, des congélateurs plus intelligents, et concrètement, dans les voitures, systématiquement, eh bien, une vasque de 50 sur 50 pour mettre les choses les plus fragiles que vous transportez en plein été. Et comme le réchauffement climatique va arriver, c'eût été bien de penser à cela.
Voilà pour le frigo. Alors, on a eu pas mal de témoignages. On a notamment Thierry qui nous dit qu'il s'est acheté un frigo avec une double porte centrale, mais il trouve que les aliments sèchent à une vitesse extraordinaire. Alors ça, c'est peut-être justement le
oui,
problème du froid ventilé.
Oui, ça c'est le travail qu'on a fait, et c'est pour ça qu'il faut une cave ventilée à 10 degrés.
Tout à l'heure.
Parce que le reste, un légume dans un réfrigérateur meurt deux fois plus vite.
8h51, Christian, pour terminer ce week-end des experts Forme Santé, bien sûr on va revenir sur l'actualité de la semaine et votre coup de gueule. Vous êtes évidemment contre cette note incroyablement salée qui s'annonce pour l'assurance maladie en fait, avec les tests Covid qui sont, rappelons-le, remboursés à 100% et qui coûtent une fortune, hein. Je crois que c'est quasiment 75€ le test.
Mesdames et messieurs, on vous abreuve de savoir sur la Covid de quasiment 20 heures par jour partout, donc nous avons fait le choix de vous parler que de cela aujourd'hui. Et là où j'ai un courroux et je reste très humble, très respectueux face aux acteurs de l'État, je ne comprends pas pourquoi un test coûte 74,80€ alors qu'en Allemagne il coûte quasiment 20€ de moins. Je ne comprends pas pourquoi les Allemands sont considérés aujourd'hui comme les premiers acteurs ayant réussi la gestion de la Covid alors que nous sommes placés 54e sur le plan mondial et les États-Unis sont 55e. Bravo, on est devant les États-Unis. Et je ne comprends pas pourquoi finalement ces tests salivaires ne sont pas arrivés plus vite. Ils vont arriver, nous le savons maintenant, mais soyons clairs, quand il faut 8 jours pour attendre finalement un résultat alors que la pathologie est passée, pendant ces 8 jours, la personne finalement a pu contaminer quasiment un village entier. Donc il y a là une véritable incohérence et je me pose la question, comme j'ai posé la question devant Nicolas Poincaré et Ulysse Gosset pendant mobilisation générale, nous disions, c'eût été bien que des militaires soient à aider nos ministères parce qu'ils ont le savoir logistique, ils ont le savoir organisationnel et ce qui nous manque à notre ministère, c'est de l'organisation.
Christian, les tests salivaires, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous avez des résultats ou alors des débuts d'études sur leur efficacité ?
Alors, il faut être vigilant et là encore avec encore plus d'humilité, c'est que les tests, c'est une science très complexe, une science de savoir-faire, une science statistique, une science méthodologique. Il faut être très humble par rapport à cela. Ce que je peux dire, c'est que les tests salivaires seront moins agressifs et psychologiquement mieux acceptés par les populations. Si le test salivaire n'a d'intérêt que si on est malade, si on est âgé et qu'on ne supporte pas le test nasal, si on a des troubles psychologiques et que le test nasal ne peut pas être fait dans le silence, dans le calme, et si concrètement, aujourd'hui, le test salivaire arrive, il faudrait qu'il soit généralisé, qu'il soit beaucoup moins cher et que l'on puisse avoir, si possible, dans moins de 24 heures, les résultats. Or, le problème, c'est pas le nombre de tests, on a tous les tests qu'il faut, c'est qu'on a des résultats 4, 5, 6, 7 jours après. Si les tests salivaires, ici, il faut autant de temps pour les tests salivaires pour avoir les résultats, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut être comme en Allemagne, s'il vous plaît, il faut absolument gérer et ne tester que les personnes qui
seraient susceptibles d'être contaminées.
Qui ont déjà les premiers signes, et je termine, et toutes les petites personnes là qui vont se tester 3 fois par semaine parce qu'elles sont psychopétées à avoir peur, et bien 3 fois 75€, c'est pour l'État, et nous ne sommes pas une tirelire, on ne peut pas donner gratuitement à des irresponsables,
Christian,
si vous voulez, ces tests.
Mais il faudrait peut-être trouver un système, c'est-à-dire qu'on a le droit à un test par mois, et tous les autres, si on le désire, on paye de notre poche le test.
Mais voilà, comme en Allemagne. L'Allemagne, c'est comme ça.
Ils sont pragmatiques. Mais bon.
En Allemagne, c'est comme ça. Vous n'avez pas de signe. Vous avez la fatuité à demander un test. Et bien, vous le payez, tout simplement.
Christian, Vous restez avec nous.
Et Raphaël est avec nous. Oui. Toujours aussi radieux. Et sur un sujet majeur.
Toujours aussi. Moi, je dirais. Toujours aussi radieux, mais même surtout toujours aussi radio, puisqu'il est là aussi pour la radio.
Toujours aussi bon sur les jeux de mots.
Je crois que là, si en revanche, il y a un test PCR pour savoir si on est bon dans les blagues, là, moi, je veux bien le prendre. Bon, je suis même prêt à le payer moi-même. Raphaël, on se retrouve dans un instant pour la vie numérique avec là aussi une innovation géniale, c'est les montres connectées. Alors les montres connectées, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais il existe aujourd'hui des montres qui sauvent la vie des gens.
Exactement, c'est vrai qu'on a plusieurs fois parlé des montres connectées, mais côté sport, là on va vraiment parler de ce qu'elles peuvent faire côté santé. Et évidemment c'est pour ça que Christian Riquet va nous faire le plaisir de rester avec nous. Et on va notamment recevoir une boîte qu'on aime beaucoup, qui est une boîte française, c'est Weezings, et qui est vraiment une pépite et qui fait des choses assez formidables.
Une boîte qui mérite le prix Nobel.
Alors, pourquoi pas ? On en discutera.
Allez, une boîte française, c'est tellement rare.
On va expliquer comment aujourd'hui des montres et des bracelets connectés sont capables de faire, en fait, que faisaient des laboratoires entiers il y a quelques années, et comment, et forcément, ça va changer aussi la façon de voir notre santé.
La clé de tout ça, c'est la prévention aussi. Exactement. Ces montres sont là pour prévenir des maladies qui, après, peuvent devenir graves. On en parle dans un instant. La météo, les infos de 9h, et on revient avec Raphaël. A tout de suite sur RMC.